parole. Et je voudrais vous inviter à continuer ce partage sur le thème « Bâtir sans avoir peur des échardes ». Nous avons commencé la semaine dernière, et cette semaine on complète, donc il y a deux messages sur ce thème, quant à l'histoire de Noé, un bâtisseur qui a été appelé par Dieu à construire une arche pour le salut de sa vie et celle de sa famille, ainsi que des animaux. Au préalable, Dieu, en voyant la méchanceté, en voyant le péché, pas seulement abondant, mais surabondant sur la terre, avait décidé de mettre fin à l'humanité, parce qu'il en était déçu. Est-ce que Dieu est-il encore déçu de l'humanité aujourd'hui ? Je dois être sincère, je pense que si ce n'est pas encore le cas 100%, ça ne tardera pas. Et de là, pour nous, à réfléchir, à bâtir non pas une arche, mais à bâtir notre vie en Jésus-Christ, lui qui est notre salut. Le bois et les clous, lui, il sait ce que c'est. Et ce que Christ a bâti pour nous, est un véritable salut éternel. Amen. Si Noé a eu cette grâce de la part de Dieu de bâtir cette arche et donner du salut à sa vie, puisqu'il était attaché à Dieu, néanmoins, si Noé n'était pas véritablement attaché à Dieu et sa famille, puisque c'est par lui que le salut est venu pour sa famille, il fallait que sa famille aussi, elle apprenne à connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est une question de connaissance personnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit en héritage. Ceux qui considèrent qu'ils ont reçu de leurs parents un héritage spirituel, je veux bien, mais cet héritage n'est pas pour vous un gage de salut tant que vous n'avez pas fait de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Vous avez eu certainement un exemple. Vous avez eu certainement une image de ce que Dieu attend, mais néanmoins, il y a ce que Dieu attend de vous de manière personnelle. Que vous soyez adulte, que vous soyez jeune, que vous soyez enfant, chacun d'entre nous, nous avons ce parcours à faire. Et la famille de Noé, à elle aussi, elle a dû apprendre qui était Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Et dans le texte que nous allons partager aujourd'hui, on va embarquer avec eux sur l'arche. J'espère que vous avez mis les bonnes chaussures. Hein ? La parole de Dieu nous dit dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voit pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Nous proclamons que le salut n'est possible que en Jésus-Christ. Et encore une fois, on voit de quelle manière Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va agir. Alors nous avons déjà partagé que Noé a fait preuve d'obéissance. Obéissance dans la construction, puisqu'il va faire ce que Dieu va lui dire et comment Dieu va lui dire. On a pu établir qu'il n'a pas trouvé les matériaux au premier magasin du coin. Vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Il a fallu travailler. Et il a travaillé combien de temps pour bâtir l'arche ? 120 ans. Ce n'est pas un petit chantier, hein ? Quelle était la taille de l'arche ? Alors, on l'a dit, 150 mètres en longueur, 15 en hauteur, 25 en largeur. Hein ? Vous n'avez pas dessiné l'arche dans votre terrain cette semaine. Et il a dû passer 13 mois sans voir la couleur du ciel. Mais on va voir un peu plus en particulier ce que ce texte nous apprend. Genèse chapitre 7, versets 6 à 16. Genèse chapitre 7, versets 6 à 16. Noé avait 600 ans. Qui a 600 ans ici? Lève la main. Et on va faire un calcul en arrière. Ça veut dire que quand Dieu lui a demandé de bâtir l'arche, il avait quel âge, Noé? Il parlait pas de retraite, Noé. Hein, et Dieu l'a choisi dans son jeune âge. Parce que vous savez qu'il a vécu bien longtemps, Noé, n'est-ce pas? Donc, je voudrais dire à tous nos frères et sœurs, très jeunes et en deuxième jeunesse, qu'on est toujours utile pour l'œuvre de Dieu. Et on peut toujours, et je dirais même, c'est ce que Dieu attend de nous, être des bâtisseurs pour le salut des âmes. Amen. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, ses belles-filles, pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et tous ceux qui rampent sous le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé, des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, la deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Et il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et ses 3 belles-filles entrèrent dans l'arche, avec tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon chaque espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous ceux qui volent et qui a des ailes, entra dans l'arche auprès de Noé, des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Première lecture. Premier examen, première réflexion. Noé est invité par Dieu à rentrer dans l'arche. Il fera son entrée dans l'arche. Finalement, il va prendre place dans ce bâtiment qu'il a construit. Hein? J'ai essayé de comprendre un peu quelles étaient les dimensions et je crois avoir trouvé quelque part qu'il faisait 43 300 tonnes. Ce n'était pas un petit truc et ce n'était pas une petite flaque d'eau qui aurait pu déplacer un tel ouvrage, n'est-ce pas? Et Noé rentre dans l'arche et il rentre lui et tous les animaux. Et ce qui est interpellant, c'est que la pluie n'a pas commencé de suite. Il a fallu attendre 7 jours pour qu'il pleuve. Étonnant, hein? Que serait-il passé dans notre tête à nous retrouver enfermés dans l'arche et de dire « Dieu a dit qu'il va faire ouvrir les écluses du ciel et l'eau ne tombe pas ». Premier jour, vous dites « C'est normal, il faut que ça se prépare ». Deuxième jour, bon, il ne faudrait pas que ça dure longtemps quand même. Hein? Ils ont oublié d'ouvrir les vannes, les robinets. Troisième jour, et là vous commencez peut-être à vous dire, mais est-ce que Dieu a véritablement dit qu'il y aurait eu un déluge? Parce que ça fait 3 jours, Seigneur, il n'y a rien. Ça n'arrive pas parfois que nous on prie, on se dit, Seigneur, comment ça se fait? Ça fait 3 jours que j'attends, 4 jours, 5 jours. Qui offre plus. Et Seigneur, il n'y a rien. C'est sec. C'est pas possible, regarde, même pas une petite pluie, une petite brume. Histoire de dire, on a vu l'eau maintenant déjà. Hein? Et on n'entend même pas dire que de l'autre côté de la planète, il y a eu un déluge. Peut-être que je me suis trompé. Et le doute aurait pu saisir le cœur de Noé et de sa famille. Peut-être que sa femme aurait pu lui dire, hey « Hé Noé, tu nous as fait quoi? Ça fait 120 ans que tu nous fais travailler et pour une pluie qui n'est pas tombée. Regarde, on se retrouve avec tous les animaux. Alors, je ne sais pas si la femme de Noé aimait les serpents. Vous aimez les serpents? Non? Alors, on parle des serpents, mais il y avait toute espèce d'oiseaux. Moi, je pense que ceux qui sont ornithologues, ils auraient été heureux. Ils auraient eu le temps de les étudier, les oiseaux, là. Hein? Examiner, peser à l'entrée, à la sortie, t'as pris 300 grammes, demain, régime. Noé, tu donnes la moitié de la réaction parce qu'il profite trop. Hein? Mais on voit que dans ce cadre-là, ils sont là, ils attendent. Et 7 jours plus tard, la pluie commence à tomber. Et ce qui est à retenir, c'est que les réserves de Dieu sont inépuisables. Amen. Genèse chapitre 7, versets 20 à 24. Les eaux couvrirent les montagnes et les dépassèrent d'une hauteur de 15 coudées. Ça veut dire 7 mètres et demi. D'accord ? Donc vous prenez la montagne la plus haute de la terre, c'est quoi ? Il fait quelle taille l'Everest ? Donc vous imaginez déjà la quantité d'eau pour arriver à la pointe de l'Everest, vous rajoutez 7 mètres et demi sur toute la terre. Parce que ce n'est pas juste un coin. D'accord ? Tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tous les oiseaux et le bétail et les animaux, tous ceux qui polluaient là sur la terre, et tous les êtres humains, tous ceux qui étaient animés d'un souffle de vie dans les narines et qui étaient sur la terre, sèches, mourus. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. Amen. Incroyable, imaginez une chose pareille. Au bout de 7 jours, le ciel s'est ouvert, la pluie est tombée, l'eau est remontée de la terre. Une telle quantité d'eau pourrait résoudre beaucoup de problèmes aujourd'hui, non ? Pas tout d'un coup quand même. Hein ? Parce que oui, là, ça résout tout. Hein ? Il n'y a plus rien qui reste. Mais il y a des terres aujourd'hui qui n'ont jamais goûté à l'eau. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'eau, elle a couvert la terre entière. Alors que nous, dans notre pensée humaine limitée, si petite, on considère que peut-être Dieu ne peut pas. C'est impossible. Vous avez déjà dit c'est impossible ? Dans votre vie, vous avez dit déjà c'est impossible ? Mais Dieu nous fait mentir. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Amen. Et là, on voit que la parole de Dieu se manifeste. Alors, moi, j'imagine Noé. D'accord, 7 jours, entre guillemets, de doute. On peut imaginer. Mais une fois que la pluie elle a commencé à tomber et que la porte a été fermée par Dieu, donc personne ne pouvait plus rentrer dans l'arche. Au bout d'un certain temps, certainement, on devrait se dire, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Avant, on attendait la pluie, maintenant, on attend que ça s'arrête. 10 jours, 20 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Il ne pouvait même pas sortir promener son petit chien, Noé. Eh bien non, c'était le confinement total, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il a fait selon vous, Noé, pendant ce temps ? Parce qu'il fallait bien occuper le temps. Alors certes, il s'est occupé des animaux. Certes, il a dû repartir dans sa tête tout le film de sa vie, n'est-ce pas ? Mais je suis certain aussi que Noé a dû prendre du temps pour dire, Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as accordé une grâce que je ne méritais pas. Vous vous rendez compte ? Le seul être humain à avoir une relation avec Dieu. Alors peut-être que vous vous sentez un peu comme Noé chez vous. Parce que votre famille ne partage pas forcément votre foi. Et parce qu'on vous regarde d'une manière comme quelqu'un qui dit, voilà, t'es monté dans ton arche, t'es enfermé dans ton monde. Mais vous savez, quand on se donne au Seigneur, Certes, on continue de marcher ici-bas, mais on fait partie de la patrie céleste déjà. N'est-ce pas ? Citoyen du ciel. Et Noé, malgré tout ce qu'il pouvait voir, il devait se dire, « Seigneur, jamais je n'ai entendu de pareilles choses. » En 600 ans, il avait la possibilité de faire une analyse dans le temps, non ? Vous voyez, parfois on dit, voilà, la dernière fois qu'il a fait tant de choses, c'était dans l'année un tel, on a des statistiques. Moi, j'aurais bien voulu, et je pense qu'un jour, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Noé. Faire quelques statistiques. Hein ? N'est-ce pas ? Dans le ciel, on aura le temps. On sera plus limité. On n'aura pas à craindre quoi que ce soit. Et vous imaginez quand vous serez dans le ciel pour et vous rencontrez Noé, vous allez lui poser quoi comme question ? Céline, tu poses quoi comme question à Noé ? Déjà, Céline pose la question à Céline. Quelle question tu vas poser à Noé ? Hein ? Peut-être que la question qu'on pourrait lui poser, c'est Noé, comment tu as fait à tenir ? Comment tu as fait à tenir ? Comment tu as fait à rester accroché à Dieu alors que tout le monde te disait ben, il n'y a pas de Dieu ? Comment tu as fait à mettre ton espérance aussi fortement en Dieu au point que tu sois le seul à être sauvé ? Comment tu as fait, Noé ? Et je suis certain que Noé ne cherchera pas une explication compliquée. Il nous dira simplement l'amour et la bonté de Dieu. L'amour et la bonté de Dieu. Mais n'oublions pas que la bonté et l'amour de Dieu ne peuvent pas non plus effacer ce qui est aussi la justice et la vérité de Dieu, n'est-ce pas ? Toutes les fois que l'homme a dépassé les limites et que le sang des innocents a crié, la justice de Dieu a été aussi exercée. Et si Dieu a dit à Noé « Bâtis ton arche » et qu'il a fallu 120 ans, pendant ces 120 ans, il y aurait certainement eu des occasions pour les hommes de changer de vie, mais ils ne l'ont pas saisi. Alors je crois, frères et sœurs, que nous aussi, encore aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il y a des choses qui vont arriver. Et pouvons-nous rester dans une attente passive ou devons-nous annoncer la vérité ? Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Acte 17, 30-31 dit « Dieu sait tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. » Mon frère, ma sœur, sois le Noé de cette génération. Et dis-toi, merci Seigneur, je ne suis pas seul. Regarde autour de toi, quand tu dis dans ton cœur, Seigneur, mais je suis seul. Ouvre bien les yeux. Vous savez, parfois on fait l'erreur d'un célèbre prophète qui disait, je suis resté seul. Et il est allé s'enfermer dans une caverne. Il n'a pas pris le temps de construire son arche, lui. S'est enfermé, et alors que, en réalité, d'autres avaient été sauvés. Je crois que Dieu sait jusqu'à où on peut aller et de quelle manière nous devons agir. Et frères et sœurs, il est important pour nous de ne pas être des insensés. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5, dit « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Alors si la première chose qui est dite par Paul à Timothée, c'est de prêcher l'évangile en tout temps, Paul met aussi un point d'honneur à avertir Timothée en lui disant « Attention de ce qui va se passer dans l'Église. » Il y aura un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils vont préférer écouter ce qui leur arrange. Ils vont se donner une foule d'enseignants et ils vont choisir à la carte. Je me rappelle d'une période où on était en Alsace. On avait une femme qui téléphonait le matin pour savoir qui c'est qui prêchait. Ah oui, elle avait son chouchou. Et si c'était elle, prédicateur, alors elle venait. Si ce n'était pas lui, elle allait ailleurs. Et moi, je crois que ça, ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas justifié. Et il est question pour nous, frères et sœurs, de faire attention, certes, autour de nous, mais déjà pour notre propre vie, car je vous rappelle ce qui est écrit en 1 Pierre chapitre 4, versets 17 et 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer, où ? Par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? Donc, si je comprends bien, frères et sœurs, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'est pas question de renvoyer au lendemain, il est question pour nous d'agir aujourd'hui. Oui, mais on pourrait dire, Seigneur, ça fait tellement longtemps qu'on entend dire que le Seigneur revient bientôt. Et là, on est un peu comme Noé qui dit, oui, tu as dit qu'il va pleuvoir. Mais souvenez-vous que ce que Dieu dit, Dieu fait. Et le jour où Dieu va fermer la porte du salut, la porte de la grâce va être fermée. À partir de là, où est-ce que voulez-vous vous trouver ? Dans l'arche ou à l'extérieur ? Ah, mais je sais nager. Je peux vous dire que, vu la quantité d'eau qu'il y avait et vu le temps qu'ils ont dû passer dans l'eau, personne n'aurait pu véritablement résister dans le temps. Je pense qu'il y a une sécurité à rentrer dans le salut de Dieu que rien ne pourra offrir et que personne ne pourra accorder quand la porte de la grâce, elle sera fermée. Est-ce que cette porte, elle est encore ouverte aujourd'hui ? Amen ? Et moi, je me dis, Seigneur, donne-nous d'avoir la sagesse. Si ce n'est pas celle de Noé, si ce n'est pas celle de sa famille, Seigneur, donne-nous la sagesse de tous ces petits animaux qui sont dit « Hé, moi j'y vais, hein. Moi j'y viens, viens la marmotte, on y va. Hein ? Le castor, viens, on y va. » Non ? Le flamant rose, pour les amateurs. Viens, on y va, c'est maintenant, parce que Dieu a dit. Alors certes, pour nous, le temps est long. Noé, après 10 mois et 20 jours, il va finalement se retrouver à quelque chose de particulier. On va le lire ensemble. Genèse chapitre 8, à partir du verset 1. Dieu se souvint de Noé. Étonnante cette phrase. Point. Dieu se souvint de Noé. Comme si Dieu pouvait oublier Noé. Non. Sauf que le temps de la pluie était arrivé. Mais le temps aussi de la décrue était arrivé. Et dit de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Et le 10e mois, le 1er jour du mois, le sommet de la montagne apparut. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux essécher sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol, mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau sur la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir. Elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il prit encore patience 7 autres jours. Puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche. Il regarda et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé en ces termes: « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Amen. » Alors Dieu fait que l'arche passe tout ce temps dans l'eau. Et là, alors je vous laisse imaginer, ça a dû quand même pas mal tanguer. Non ? Au point parfois d'être difficile de se déplacer dans l'arche. Il n'y avait pas le luxe que nous avons eu peut-être pendant cette période de confinement. Il n'y avait pas forcément tout le confort qu'on pourrait nous imaginer. C'était très spartiate. Il fallait pouvoir mettre tout le monde. Et il fallait que tout le monde puisse avoir un minimum de place. Et le texte nous dit que Dieu n'oubliait personne. Amen. Après 10 mois et 20 jours, Noé, il comprend que l'eau s'était retirée. Alors, on a parlé la semaine dernière de ce que ça peut représenter, cette petite fenêtre. Est-ce que vous y avez réfléchi ? La fenêtre, dit le texte, qu'elle faisait 50 cm. Imaginez sur le bâtiment de 150 mètres, vous mettez une petite fenêtre de 50 cm sur 50 cm. Quelqu'un pourrait dire, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est impossible. Mais il fallait que ça soit hermétique. Alors pourquoi une fenêtre ? Alors certes, il y a l'aspect où il fallait un moyen de pouvoir comprendre si l'eau s'était arrêtée, où on en était. Donc Noé va lâcher le corbeau. Première fois, il revient, mais après, finalement, il a trouvé de quoi manger le corbeau. On sait de quoi se nourrissent parfois les corbeaux, n'est-ce pas ? Il devait y avoir de quoi faire sur la terre. Et après, c'est finalement le tour de la colombe. Il la laisse une première fois, la colombe, elle revient. Deuxième fois. Et finalement, il y a quelque chose dans son bec. Quoi ? Si ça se tombe, elle est venue le chercher ici. Hein ? Troisième fois, il lâche la colombe, mais elle ne revient pas parce que finalement, elle a retrouvé ce qu'elle avait besoin de retrouver. Pourquoi une fenêtre ? Si vous analysez bien la parole de Dieu, quelle qu'il soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu nous laisse toujours une petite fenêtre. C'est pour que nous puissions élever une prière. Demander à Dieu son secours. En entrant d'étudier le livre de Jonas, Jonas s'est trouvé dans le ventre du poisson. À quel moment il a été délivré ? Après avoir prié, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles il y avait juste une petite fenêtre ? Est-ce que dans votre vie, est-ce que vous pensez que Dieu vous a enfermé dans une boîte et vous a laissé dans votre problème, ou est-ce que vous arrivez à voir la petite fenêtre que Dieu a fait pour vous ? Elle est à votre disposition. Cette fenêtre-là, Dieu ne l'a pas fermée. Il a laissé à Noé la possibilité et le droit d'ouvrir cette fenêtre. Et je voudrais vous dire qu'à chacun de nous, Dieu a donné le droit, mais je dirais même le devoir personnel d'ouvrir la fenêtre et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Est-ce que Noé avait besoin de Dieu ? Oui. Est-ce que Dieu l'avait oublié ? Non. Mais il y a un moment, frères et sœurs, où chacun de nous, nous devons avoir aussi une conviction profonde et savoir aussi nous approcher de Dieu et disant, Seigneur, dans la situation, dans les circonstances, dans les temps dans lesquels je me trouve, même si je me sens enfermé dans une situation difficile, tu as prévu pour moi une fenêtre. Et je veux ouvrir cette fenêtre. Parce que c'est une fenêtre qui va me permettre de voir où j'en suis. Ce n'est pas en me renfermant dans mes pensées et dans mes propres discours et dans mes analyses et même mes statistiques. Non, j'ai besoin de voir le ciel et dire, Seigneur, je lève les yeux vers toi. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé parce que je me suis dit, du moment que finalement il se rend compte que la colombe ne revient pas, il dit le texte qu'il a ouvert la couverture, il a enlevé le toit. Magnifique, hein ? Vous imaginez ? C'est comme nous quand on est sorti, je ne sais pas vous ce que ça vous a fait la première fois, quand on ressort après une période où on est enfermé. Il y a eu un moment où j'ai dû, moi aussi, puisque cas contact de cas contact, ne plus avoir contact avec personne. Et là, vous vous dites, bon, la première heure, vous dites, bon, je vais profiter, je vais me reposer. Hein ? J'avais ma guitare, j'avais mes cahiers, j'avais ma Bible, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais au bout d'un certain moment, vous avez fait le tour de tous les champs, hein ? Et là, vous dites, Seigneur, mais ça va durer combien de temps ? Moi, je me suis dit, le pauvre Noé, il devait avoir un bon répertoire quand même. Mais il y a un moment où il a crié à Dieu. Et vous savez, quand il est sorti, je pense que l'air devait avoir une saveur différente. Le ciel devait être d'une couleur que peut-être il avait même oubliée. Peut-être que Noé, il a appris à nouveau à profiter des petites choses. Alors quelque chose m'a interpellé particulièrement, c'est parce que Noé, pas seulement il ouvre le toit, mais il aurait pu se dire, compte tenu de la situation, maintenant je peux ouvrir, je peux sortir. Qu'est-ce qu'il aurait risqué, Noé, s'il sortait ? Peut-être qu'il aurait pu mouiller un tout petit peu encore ses orteils, salir un peu avec de la boue ses sandales. Mais il nous dit le texte que Noé est resté encore un mois. Un mois. Pourquoi ? Parce que Noé attendait que Dieu lui dise « Maintenant, tu peux sortir. » Et je crois, frères et sœurs, que chacun de nous, nous devons apprendre à laisser Dieu nous dire à quel moment faire les choses. Parfois, on se croit un droit qui n'est pas celui que Dieu nous a donné. On est trop rapide. Moi, je vous dis sincèrement, j'aurais été à la place de Noé, j'aurais sauté de l'arche. Est-ce que j'aurais bien fait ? Non. Est-ce que j'aurais pu trouver devant Dieu des justificatifs ? Mais Seigneur, tu sais, après X temps dans l'arche avec les animaux, ça sent, Seigneur. Ça sent le fauve. En plus, le lion, il a une mauvaise haleine. Hein ? Et le gorille, alors, si tu savais le gorille, Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a fait avec toutes ces pauvres bananes ? On n'en peut plus. On glisse à droite, on glisse à gauche. Et nous, on cherche toujours des excuses pour dire à Dieu pourquoi on a fait ceci et pourquoi on a fait cela. Et Noé, il attend. Et regardez, Dieu lui dit, maintenant, Noé, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Quel exemple d'obéissance, Noé. Il y a une seule chose que Noé va s'octroyer le droit sans demander à Dieu. C'est quoi ? Le texte nous dit qu'à la sortie de l'arche, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Alors sans faire comparaison forcément, mais moi j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions, frères et sœurs, prochainement, puisque nous avons, avec la grâce de Dieu, la possibilité de reprendre un culte tous ensemble à partir du 1er juillet, non pas de bâtir à l'extérieur un autel à l'Éternel, mais que nous puissions préparer notre cœur à remercier Dieu de nous avoir gardés, de nous avoir entourés, de nous avoir accompagnés, d'avoir par sa main relevé ceux qui ont été malades. Que le Seigneur puisse aussi consoler le cœur. Que Dieu puisse, dans sa bonté, dans sa miséricorde, frères et sœurs, recevoir de notre part un parfum de louange, un parfum d'adoration. La seule liberté que Noé, il s'est permis. J'aimerais terminer avec deux références. La première se trouve en Ésaïe chapitre 30, verset 21. C'est pour que nous apprenions à suivre la direction de Dieu. Il dit « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marche-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Mon frère, ma sœur, ou peut-être vous qui êtes là pour la première fois, faites confiance à l'Éternel. Laissez Dieu vous donner la bonne direction. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix à faire, laissez Dieu prendre la décision. Et je voudrais dire aux étudiants qui sont là, peut-être que votre parcours scolaire a été bouleversé. Vous aviez imaginé déjà votre carrière en disant « je vais faire ceci, je vais faire cela » et tout a été bousculé. Mettez votre confiance en l'Éternel. Dieu a pourvu pour vous déjà mieux que ce que vous aurez pu imaginer. Amen. Alors, demandez à Dieu, Seigneur, quelle est la direction que je dois prendre. Amen. Et le psaume 103 dit ceci, à partir du verset 1. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui a besoin de rajeunir ? Allô ? Ça vous intéresse le programme ? Qui a besoin de guérison ? Qui a besoin de pardon ? Qui a besoin de miséricorde ? Alors, mon âme, bénis l'Éternel. Fermons nos yeux un instant et prions ensemble. Seigneur, encore ce matin, nous voulons te dire que tu es et tu demeures ce Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel qui a préparé et prévu tout d'avance, Seigneur. Tu as usé de compassion, tu as usé de patience envers chacun d'entre nous. Et encore ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci de garder encore la porte de la grâce ouverte, Seigneur, pour que le plus grand nombre puisse, Seigneur, rentrer dans ce salut parfait qui est en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous sommes conscients aussi que ce que tu dis du fait, et nous attendons ton retour, Seigneur. Et Seigneur, nous, notre espérance, elle est en toi, Seigneur. Encore ce matin, il y en a qui ont besoin d'être guéris, Seigneur. Et tu guéris de toute maladie. Encore ce matin, tu es celui qui pardonne de tout péché. Encore ce matin, Seigneur, tu demeures toujours le même. Tu es celui qui encore, Seigneur, est capable de nous rassasier de jour, mais surtout de la joie de t'appartenir. Seigneur, merci encore de rajeunir les corps qui sont fatigués, Seigneur. Je te prie pour tous nos frères et sœurs, particulièrement pour nos aînés, Seigneur. Que ta main soit sur eux, renouvelle-les, Seigneur. Ceux qui, pendant toute cette période, ont eu beaucoup trop de travail, nous pensons à tous ceux qui sont dans le corps médical, Seigneur. Renouvelle leur corps, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont dû prendre soin de leur famille et qui n'ont pas pu avoir de secours de droite ou de gauche, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, les forces de chacun. Seigneur, merci, merci de renouveler ton Église. Esprit, âme et corps, nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen.